Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Chaz. Salut.
Salut.
Tu vas bien ?
Ça va ?
Ouais. Très bien. Merci. Bienvenue à toi.
Merci de l'accueil.
Chaz, tu es producteur et depuis quelques années, tu as collaboré avec des artistes tels que Riles, Alonso, Léon, SCH, Younes ou encore Lesram. T'es également très impliqué sur l'album Tombolo de Kalash, sorti l'an dernier. T'as aussi placé aux États-Unis pour Pee Wee Longway, Migos ou encore Key Glock. Et t'as créé aussi une émission, le 808, le 8, on va le dire à l'américaine, le 808 Club, yes, en compagnie du producteur Alex Grox, dans laquelle vous invitez des artistes dans votre studio pour créer un morceau avec vous. On va revenir sur tout ça, on va prendre le temps justement de retracer ton parcours. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de ton parcours d'auditeur déjà. C'est quoi ton premier souvenir lié à la musique, Chaz?
Waouh, premier souvenir lié à la musique, c'est une très bonne question. J'ai pas le premier souvenir, mais il y a des artistes qui m'ont marqué quand j'étais petit, comme dans plein de styles différents, comme Red Hot Chili Peppers, Matrixé de ce groupe-là.
Quand grand groupe de rock californien.
Exactement, Jimi Hendrix, Bob Marley, c'est vraiment mes premières inspirations, 50 Cent aussi, Eminem. Ouais, vraiment les gros artistes américains, plutôt musique anglo-saxonne. Okay. Voilà, j'ai pas trop été bercé dans la musique française en fait, donc plutôt musique anglo-saxonne et après un petit peu, moi je suis d'origine tunisienne aussi en Tunisie, voilà donc c'est ça les premiers souvenirs.
T'as grandi dans un environnement musical, est-ce que déjà dans ta famille il y a des mélomanes ou même des musiciens?
Ma mère et ma sœur elles font de la chorale, elles chantent, mais pas de manière professionnelle, okay. Donc c'était plus amateur, musicien amateur on va dire.
Tu m'as dit que t'étais d'origine tunisienne?
Ouais.
Tu es né à grandir en Tunisie ou tu es directement né...
Ma mère est française, okay. Mon père est tunisien et donc moi je suis né en France, okay. J'ai vécu en France.
T'as grandi où si c'est pas
dans le 91.
Dans le 91,
ouais,
d'accord.
91.
Où ça exactement?
À Brunois.
Ok.
Voilà. Donc, d'accord. Pour ceux qui connaissent, Val-d'Hier, entre Hyères, Montgeron, Villeneuve-Saint-Georges, voilà, dans cette zone-là. Quoi.
Et justement, de tes premières sensibilisations à la musique, justement, avec cette musique très, très anglo-saxonne et américaine de manière très large, à quel moment tu t'es senti une envie de toi aussi faire de la musique?
En fait, c'est une bonne question. Moi, déjà, j'ai fait de l'école de musique, donc j'ai fait du violon en premier.
D'accord.
Ensuite, j'ai fait du piano.
À l'enfance, à l'adolescence?
À 8 ans.
Ok, ouais.
Donc tout petit, j'ai eu la chance de faire de l'école de musique. C'était un peu, pour mes parents, un peu une chance de me donner ce que eux n'ont pas forcément eu. Et du coup, de nous permettre d'avoir un cursus musical et de se développer un petit peu en tant qu'enfant. Mm-hmm. Mais c'était vraiment passion, c'était pas professionnel. Et moi, je suis vraiment tombé amoureux de cet art-là. Et en fait, j'ai commencé à vouloir créer de la musique peut-être à 13 ans.
Ok.
Voilà, à 13 ans, j'ai commencé à composer au piano, à commencer à faire des premières compositions avec un groupe que j'avais à l'époque aussi. Donc ouais, voilà, c'est comme ça que ça a commencé vraiment au piano. Et après, je me suis mis à la guitare en autodidacte. Et pour le coup, pareil, j'ai commencé à composer, la création. Je sais pas, une envie de faire un peu ce que les gens que je voyais, que j'admirais, de le faire un peu par moi-même. Et voilà, tout simplement.
Tu es né en quelle année ?
95.
Ok, donc 13, 14 ans, on est sur la fin des années 2000, début des années 2010, quoi.
Ouais, exactement, c'est ça. Tout
ok.
Ouais.
Et quand tu grattais des trucs à la guitare, c'était quoi?
Waouh, franchement, il y avait un peu de tout. Il y avait beaucoup Red Hot Chili Peppers, il y avait beaucoup les Nirvana, beaucoup de groupes de rock, du jazz un petit peu aussi. J'aimais beaucoup le blues. En fait, tout ce qui est rock, jazz, blues.
La musique afro-américaine au sens très large.
Afro-américaine, soul un petit peu plus tard, parce que c'est un peu plus technique à jouer. Mais quand j'ai un peu compris comment ça marchait, j'ai tombé amoureux de la soul. Et voilà, et après, du coup, le hip-hop qui est arrivé, pareil. Tout, pour moi, tout ça, c'est lié. Voilà, mais
bien
en
sûr,
tout cas,
et c'est lié.
Et voilà. Et du coup, pour moi, tous les styles, en fait, j'ai même fait des trucs, musique africaine, musique orientale, termes de gamme, tu vois, la guitare et tout. J'étais curieux de tout apprendre, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu, quoi.
Et cette curiosité t'a mené à quel moment à la musicacité par ordinateur, justement?
Ouais, ça c'est une bonne question. Du coup, la prod vraiment sur ordinateur, moi je composais déjà avant, mm-hmm. et c'était plus du par cœur en fait. Je composais pour jouer en live.
Okay.
Donc il n'y avait rien d'enregistré.
Ouais, ouais.
Et après, je suis allé en studio la première fois, j'avais gagné un tremplin avec la ville de Brunois. Ils nous avaient offert un tremplin, donc une journée en studio, première fois que je jouais en studio.
Trop bien.
J'avais 14 ans et je me suis dit, ah, c'est incroyable. La création avec des vraies machines, et donc la prod, elle a commencé un petit peu là. Et après, en 2013, j'ai commencé la prod sur Reason.
Ok.
Première fois que j'ai eu un PC à moi, en fait. Donc en 2013, voilà, premier PC, tout de suite Reason.
Donc t'as 18 ans à peu près.
Ouais, exactement, c'est ça. 17-18 ans, j'ai commencé à prod un petit peu. Je faisais un peu d'électro, un petit peu de boom bap, un petit peu de West Coast. Et franchement, voilà, moi j'ai tout fait dans la musique.
Alors on parlait de tes inspirations en tant qu'auditeur et ensuite justement quand t'as commencé à jouer des instruments de musique. C'était quoi tes inspirations au moment où tu commençais à faire des prods? Parce qu'on, comme tu le disais, on imite avant vraiment de se développer. T'essayais d'imiter quoi? C'était quoi un peu tes inspirations en tant que beatmaker, j'imagine, afro-américain, du coup?
Ouais, beaucoup de J Dilla, Pete Rock, beaucoup Badré.
Les grands modèles du genre.
Franchement,
quoi.
Rien de. Voilà, c'est ça. Hein. Et après, je suis vite allé dans le South aussi, quand même, en 2000, peut-être, entre 2011 et 2014. Je me suis vraiment bercé dans les Houston, dans les Memphis, dans tous ces trucs-là. Donc, j'ai écouté les Tri-Six, machin. Donc, ça m'a vite influencé. Et voilà, en fait, j'ai vraiment fait. À un moment donné, je me suis vraiment. Je fais une cartographie un peu américaine. Bon, il y a plein d'identités par ville. On va un peu voir de quoi il en est. Et je me suis un peu inspiré de tout ça pour commencer les prods. Mais au début, c'était très boom bap et c'était un peu électro aussi. J'aimais bien un peu la vague Snake, un petit peu, etc.
Ouais, bien sûr.
Donc voilà, ça passait même en soirée. Ça m'a bien influencé aussi. Et après, vite, hip-hop à fond, quoi. 2013, comme je te disais.
Il y avait des producteurs français aussi dont la musique te plaisait?
DJ Mehdi. Parce que pour le coup, on est, je crois qu'il est franco-tunisien comme moi. On
exactement.
Est tous les deux.
Tout à fait, ouais.
On a le même prénom. C'est quoi, je m'appelle Mehdi.
Ok.
En fait, j'ai trop de liens avec ce mec, mais sans l'avoir rencontré. Et son parcours m'a inspiré du fait qu'il soit multi-genre, en fait. Et hip-hop, il est l'électro, il fait la pop. Enfin, il a fait quand même plein de styles.
Exactement.
Et du coup, DJ Mehdi, ça m'a vraiment
influencé. Et un énorme amateur de rock et de pop comme toi aussi. C'est-à-dire que lui, je crois qu'il connaissait la discographie des Beatles par cœur, par exemple. Donc voilà, c'était un énorme fan de musique au sens très large du terme, comme toi, effectivement. Ouais.
Bah, exactement. Du coup, ça m'a vraiment pissé souvent, quand on est jeune ou quoi, on a besoin de modèles.
Bien sûr.
Et c'est vrai que DJ Mehdi, par tout ce que je t'ai dit, par son identité et la mienne, je me suis vraiment vu, entre guillemets, en lui, d'une autre manière. Et voilà, ça m'a grave inspiré.
C'est quoi ta production préférée? Repose en paix, exactement. C'est quoi ta production préférée, DJ Mehdi?
Alors, Tonton du Bled, déjà, c'est incroyable. Pour l'originalité, faire un truc un peu comme les Américains font avec leur musique ancestrale, j'allais dire.
Ouais, tout à fait. Voilà, d'aller chercher ethnique. Dans ses propres racines musicales pour faire de la musique actuelle, quoi.
Exactement, il y a ça, il y a Signatune, c'est ça?
Signatune, ouais, tout à fait. Ouais.
Ouais, c'est un peu les classiques, mais moi, c'est ça qui m'avait matrixé, ce titre-là aussi, quand je l'avais écouté. Moi, je dirais ces deux-là.
Ok. Ouais. Avant chaque émission, justement, où j'accueille des producteurs comme toi, je demande au moins une question, c'est est-ce qu'il y a une production que toi, tu aurais aimé faire, qui a pu être importante dans ton parcours, dans ton inspiration, dans l'idée que tu te fais aussi de toi en tant que producteur, ce que tu aimerais faire? Et tu m'as cité OG Kush Diet de 2 Chainz.
Ouais.
Pourquoi ce morceau?
Ouais, j'ai longtemps hésité, c'était une vraie question, je t'avoue que j'en ai pas dormi des nuits.
Je vous torture à chaque fois.
Des playlists sombres de demi-jet, qu'est-ce que j'écoutais? Alors vraiment, non, sans blague à part, ce titre-là, en fait, je l'adore parce que pour moi, c'est vraiment c'est un voyage, en fait. Et moi, ça me représente beaucoup, c'est-à-dire qu'on part au début, donc d'un son très trap, sombre, des bas-fonds d'Atlanta, des basses très distordues. Après, si je parle d'harmonie et de gamme un petit peu, presque, tu vois, on est dans un truc très tribal, en fait. Et on arrive après sur la moitié du titre où on part en reggae.
Ouais.
Rien à voir.
Tout à fait,
et vraiment un reggae festif.
Ouais.
En mode un petit peu.
D'Atlanta, on va au sud-est et boum, on arrive dans les Caraïbes. Quoi.
Voilà, c'est ça, un peu entre la Jamaïque, on va dire, et Atlanta. Et ouais, je sais pas, ce titre-là, c'est incroyable. Puis je l'avais découvert quand j'étais là-bas sur place, je crois, à Atlanta.
Ok,
je suis un Américain qui me l'avait fait découvrir, un pote à moi et tout. Donc Pretty Girl like Trap Music.
Qui sort en 2017, ouais, tout à fait.
Ouais, exactement. C'est un premier voyage à Atlanta et un des meilleurs albums de trap pour moi. Et franchement, ce titre-là, je recommande pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça m'a vraiment. C'est une vibe, et moi je kiffe la vibe sans calcul. Yeah, your favorite rappers got no talent. Homeboy got cold cabins. You drive a Porsche till I found out it was made by Volkswagen. This here is a toe tag. Titty boy gonna toe tag him. Gonna hook that to the tow truck. Let him know this a toast.
Donc là, on était en 2017, et tu auras l'occasion de nous parler un petit peu justement de ce voyage outre-Atlantique. J'aimerais qu'on vienne un tout petit peu en arrière. Mmh. À partir du moment où tu commences à faire des productions, est-ce que tu franchis vite le pas de te dire « faut que je propose ça à des rappeurs ?» Est-ce que ça prend son temps ? Est-ce que dans ton entourage, il y a des rappeurs ? Est-ce que t'envoies... Comment ça se passe en fait ce truc de « tu fais de la musique dans ta chambre » au « je commence à faire mes premiers placements » quoi ?
Ouais. Alors du coup, moi avec mes potes passionnés de musique, donc on a fait tous les styles et à un moment donné, bah, à fond dans le rap. Et du coup, ça commence à rapper, ça commence à freestyler, on s'amuse un petit peu. Et moi, je savais que j'avais un truc, parce que déjà, je savais que la musique, je maîtrisais. Je connais les gammes, genre, je connais la musique, cette science-là. Donc, je savais que je pouvais m'épanouir là-dedans, surtout quand on a l'amour du truc. Donc, j'ai vraiment commencé à me dire, bah, c'est quoi en vrai, test d'envoyer des choses. Et je commence à envoyer des productions à C-Boy. Par hasard en 2016, donc c'était le moment où il était un peu au pic, etc. de sa carrière, et il me répond. Donc c'était le premier gros rappeur qui me répondait, c'était lui. Et ouais, j'ai trouvé ça assez un bon signe et assez ouf en vrai. Il me dit ouais, j'écris sur ce titre là, est-ce que tu peux m'envoyer d'autres prods, etc. Et après, il y avait lui, il y avait d'autres potes du coup que j'avais invité sur un projet à moi qui s'appelait Décollage Imminent. Voilà, ça veut tout dire. Donc il y avait une dizaine, quinzaine de rappeurs. Je faisais toutes les prods. Donc j'étais déjà dans un truc de, tu vois, de producteur un peu à l'américaine, etc.
D'avoir la vision globale, quoi.
2016, je me mettais en avant en artiste. Parce que moi, avant, quand j'étais dans un groupe, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais eu ce truc de me mettre en retrait, en fait. Parce que pour moi, c'est juste, il y a un bassiste, il y a un guitariste, il y a un chanteur, et en fait, on est tous partis d'un truc.
Bien sûr.
Donc pour moi, c'est ça vraiment ma mentalité. Et du coup, j'ai fait ce projet-là. Donc j'ai invité des rappeurs à moi. Ils ont commencé à poser sur des, bah, du coup, sur mes prods. Mais pour vraiment les premières fois où j'ai eu, j'avoue, je m'en rappelle plus, les premiers sons qui ont été posés sur
alors,
prod à moi.
Alors ouais, justement, moi j'ai regardé un peu tes crédits pour préparer cette interview. Le premier placement que je vois à ton nom chronologiquement, c'est en 2016 pour le groupe Pirate Rime.
Ouais, exactement.
C'est un morceau qui s'appelle Le Mal est fait. J'ai galéré grave et c'est pas fini. J'habite ici, je viens de la Martinique. Les notes sont fières et n'ont pas de limite. Non, pas vine, check moi s'il y a pas le feeling. Démarre au air, pas au Martini. Ma vie n'a pas de sens tant que j'ai pas le mili. Nous parle pas de chance car on connaît pas ça. Nous parle pas de français, c'est administre. Alors ce groupe, comment tu le rencontres et comment se fait ses premiers placements? Est-ce que tu te souviens de ça?
Ouais, je m'en souviens très... Waouh, tu m'as ramené dans un truc. Pirate Rime, c'est un des premiers groupes en fait que j'avais contacté parce que j'étais tombé sur un freestyle à eux, 2012 je crois, incroyable. Il y avait des mecs qui faisaient déjà de la trappe en France, mais je trouvais que c'était pas fou. Et j'ai trouvé que Pirate Rime, ils avaient une science de savoir rapper et raconter techniquement des choses et un vécu sur des prods. Actuel, c'était Migos, ils prenaient beaucoup de face B, etc., Lex Luger, mais c'était architechnique en fait. Et moi à l'époque, j'aimais beaucoup la technique d'artistes type, les Alpha One, Nekfeu, etc. Et du coup,
Tu voulais réussir à trouver quelqu'un qui soit dans l'entre-deux, quoi.
C'est ça, exactement. Et surtout qu'il y avait ce côté moderne que les Nekfeu et tout, bon, c'était un peu quand même old school.
Ouais.
Et à l'époque en tout cas, et après ils se sont modernisés. Bref, et du coup, Pirate Rim, je crois que je les ai rencontrés à un open mic sur Paris, parce qu'ils travaillaient beaucoup avec le S-Crew.
Okay.
Donc Pirate Rim avait fait les premières parties du S-Crew et de Nekfeu, du coup, au Zénith. Non, pas au Zénith. Des salles. C'était vraiment avant que Nekfeu pète, en fait, je m'en rends compte aujourd'hui.
Donc avant 2015, quoi.
Ouais, non, même avant bien avant. Ouais, c'était 2000, je sais pas, peut-être 2012 ou 2013, un truc comme ça. Mais bon, entre 2012 et 2015, en tout cas. Et voilà, et du coup, ils ont commencé à bien aimer ce que je faisais moi. Je leur envoyais pas mal de trucs. Ils n'avaient pas trop de producteurs dans leur entourage aussi. Mm-hmm. Et on s'est bien entendu et ils ont commencé à prendre mes prods. Et ils avaient déjà un petit peu plus d'expérience, on va dire, que leur un peu plus âgé que moi, etc.
Ouais, okay.
Donc c'est les premiers clips sur mes prods.
Ouais, ouais.
C'est ça.
Moi, il y a un truc qui m'a tout de suite marqué avec ce morceau, le Mal est fait, c'est qu'il y a un sample dessus, si je dis pas de bêtises, qui est un sample très connu des amateurs de rap français. Alors moi, je snitch pas les samples si tu m'y autorises pas.
Tu peux. Vas-y, oui, bien
donc c'est le morceau Edge of Illusion de John Sermon qu'on entend dans le silence, n'est pas un oubli de Lunatic. C'est bien, c'est ça ou pas?
Je m'en rappelle plus.
Ok. Écoute, en écoutant le morceau.
Ah oui, mais oui, si, t'as raison. Ouais. Et j'ai pas. Attends, si je me trompe.
Sauf que tu l'as découpé de telle manière que. Ça sonne pas comme quoi, tu vois. Donc j'ai trouvé ça intéressant déjà d'avoir cette démarche de c'est de la trappe, mais
ça fait,
on fait ça autrement quoi.
C'est ça, ça fait sens. Et même il y avait pas, c'est ce morceau où j'ai pris une intro d'un film de du Parrain.
Ah c'est possible, ça me revient pas.
Il me semble que si je crois que le Mal est fait c'est celui-là, un clip sur Paris, etc. Il faut que je réécoute. Là tu m'as remis dans le truc.
C'est loin maintenant, c'est 7 ans en arrière, c'est une éternité.
C'est ça, non j'ai oublié.
Et donc là donc c'est en tout cas c'est le premier, je le disais, le premier placement de manière chronologique. Ouais. T'as produit d'autres choses aussi pour Pirate Rime.
Ouais.
On arrive en 2018, puisqu'on est justement là chez Bouscapé. Tu produis notamment un morceau pour K-Point, qui est un de ses freestyles, qui s'appelle Bouscachine.
Ouais.
Est-ce que tu te souviens un petit peu aussi comment se fait ce morceau-là quoi?
Malheureusement, je m'en rappelle.
Tu t'en souviens pas?
K-Point, comment ça s'était fait? Par mail, je crois, tout simplement. Et après, on s'était vu avec Reda Prince, qui bosse pas mal avec lui, que Reda Prince qui a fait Ma Cité à craquer avec
tout
Nio.
À fait, ouais.
Et du coup, on était en studio avec Capoin. Et je sais plus si c'était avant ou dans cette période-là, en tout cas. Mais ouais, Bouskachine, c'était assez cool, un de mes premiers placements avec un artiste un peu connu.
K-P-O-I-N-D, v'là le glace du négro. Camer est légendaire, Samuel Eto. Sur ton crâne, j'casse guitare, ta grand-mère est kécho. J'te monte sur le ring et le trône apparaît sur le déco.
Et c'est aussi un morceau, c'est pour ça aussi que je voulais en parler, sur lequel il y a une boucle de guitare. Mm-hmm. C'est de la trap avec. Alors, il avait son truc de trap and roll, je crois. Enfin, il avait tout ce délire chez lui. Mais il y a aussi une guitare. Et tu me disais que tu avais aussi appris à jouer de la guitare en autodidacte. Mm-hmm. Est-ce que c'est un truc que tu joues toi-même déjà sur ce morceau-là? Ouais.
Je m'en rappelle.
Tu te souviens pas non plus?
Je suis désolé.
Bah non, mais c'est pas grave.
Je réécoute. J'ai pas fait mes devoirs de réécouter mes anciens titres. Je sais plus.
Tu sais
mais en tout cas, ouais, la guitare, ouais, moi j'adore.
J'essaie
d'amener une touche toujours organique dans mes prods. Moi, c'est ma couleur.
Déjà à cette époque-là, est-ce que tu as le souvenir, en tout cas, de non seulement être dans la musique assistée par ordinateur, c'est-à-dire vraiment d'être logiciel, mais déjà apporter tes propres jeux d'instruments à toi sur tes prods, quoi.
Toujours.
Okay.
Toujours. Depuis le début, moi, j'aime la guitare, j'aime la basse, j'aime l'organique. En fait, le côté, pour moi, les instruments, c'est intemporel. Et il y aura peut-être dans 200 ans, comme il y a 200 ans, les gens seront toujours touchés par un piano, en fait. Il n'y a rien de mieux que ça. Et c'est vrai que les logiciels essayent de s'en rapprocher. Mais moi, bon, j'aime bien le feeling de vraiment jouer. Et parfois, je prends des boucles aussi, hein, mais voilà, j'aime bien ce feeling-là de jouer. Mais par contre, dans la rythmique, j'aime bien quand ça tape, quand même.
Bien sûr. Et puis en plus, l'avantage, effectivement, de savoir jouer soi-même des instruments de musique, c'est que ces boucles que tu fais, tu peux les retravailler. Ça peut être une matière première que tu peux retravailler à l'infini comme tu veux avec tous les effets qui existent, quoi.
Exactement, tout à fait.
T'es pas obligé de garder ça de manière naturelle.
Je m'en sers souvent comme base de créativité. Ça m'aide souvent. Ouais, ouais.
En 2018, il y a un placement... pour une coproduction aussi qui a fait du bruit, justement, c'est le morceau Le Code d'SCH. Alors, vous êtes plusieurs dessus, justement. C'est la première fois que je vois, pour toi en tout cas, une coproduction à cette échelle-là. Mmh. Est-ce que, genre, des fois, les souvenirs ont l'air d'être un peu flous. Est-ce que tu te souviens un petit peu pour celui-là, comment ça puisse
faire? Là, je m'en souviens bien. Alors déjà, je suis arrangeur dessus, je ne suis pas compositeur.
D'accord.
C'est Pyromane qui a fait la prod.
Tout à fait.
Il y a Catherine, il y a Guilty et moi qui avons bossé sur des arrangements. Moi, j'étais justement en mode guitariste, en fait. Donc, j'ai mis de la guitare acoustique, des guitares électriques, je crois, et un oud, si je ne me trompe pas. J'avais déjà mon oud à l'époque. Donc, c'était vraiment des arrangements. Et c'était un des premiers crédits, effectivement, où j'avais mon nom. Alors, voilà, pas en tant que du coup producteur, mais en ayant participé à un titre qui a cartonné à l'échelle française.
En ayant presque un rôle de musicien de studio, comme ce que tu as écouté pendant très longtemps, quoi.
Exactement, totalement, c'est ça, musicien studio, exactement.
C'était nouveau pour toi, justement, d'être dans ce rôle-là? Est-ce que tu avais déjà fait des choses avant qui n'étaient jamais sorties, ou c'était un peu une première d'avoir ce côté, d'apporter un peu la touche finale, tu vois, sur ce genre d'arrangement, quoi?
Un petit peu les épices dans le plat, quoi.
Ouais, exactement.
En fait, j'avais déjà fait avec mon groupe à l'époque quand on était en studio, donc pour moi, c'était juste faire de la musique, hein. Franchement, c'était assez facile mais intéressant. Et puis c'était Pyromane qui m'avait appelé, il m'avait dit ouais, nanana, parce que je l'avais rencontré un peu par hasard, on avait connecté, bien sympathisé. Il me dit ouais, on a besoin d'un élément acoustique, je sais que t'es guitariste, tente de rajouter des trucs. Et voilà, après ils ont gardé, donc c'était ça.
C'est là que les compétences, les skills individuelles, parfois ça peut faire la différence aussi quand on est dans l'écosystème dans lequel tu es.
Totalement.
De savoir en plus jouer des instruments de musique, on a pensé à toi pour, donc c'est pas négligeable, quoi.
Grave, c'est une vraie carte de visite, et je pense que chacun a son entrée dans un game, et quand on en a plusieurs cordes à son arc, c'est mieux, je pense. Ouais.
On arrive en 2019, et là, il y a un album qui sort qui s'appelle Anamnesis, d'un artiste qui s'appelle Box.
Ouais,
Et justement, là, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une compilation que tu avais sortie où tu avais eu un peu ce rôle, non seulement de producteur, mais aussi de penser à tout, quoi, de producteur au sens presque américain du terme, au sens très large. Et là, justement, sur ce disque-là, c'est pas seulement du placement, t'as plusieurs productions. Est-ce que c'est un des premiers disques sortis sur lequel t'as eu un rôle plus large, justement?
Ouais, tout à fait. Box, du coup, qui est un des membres de Piratrim.
Tout à fait.
Donc, avec qui on s'entendait bien, etc. À l'époque, aujourd'hui, on bosse plus ensemble. Mais effectivement, au début, c'était l'idée de... Pour moi, c'était d'avoir un rappeur, un artiste en développement, avec qui je pouvais avoir une vraie couleur et une vraie liberté. Pour moi, c'est toujours le mot que j'essaye de développer, c'est l'identité et la liberté, parce que je pense que c'est, en tant qu'artiste, c'est les trucs les plus importants. Et du coup, un artiste en développement permet ça. Et Box, que je trouvais très fort lyricalement, que je trouvais qu'il avait une vraie plume, un vrai flow, me comprenait ma musique. Et du coup, j'ai réussi sur ce projet-là à faire quasiment tout. Et beaucoup de collabs aussi. Donc, j'amenais d'autres producteurs en session. Mm-hmm. Je me disais, ah, tiens, lui, c'est mon gars, il est chaud dans tel style, ok, vas-y, on y va. Donc, ouais, c'était vraiment un rôle de réal, un peu non officiel, mais finalement, c'était un peu de la. Ouais, c'était réal, en fait, ce que je faisais. Avoir une vision, essayer d'accompagner l'artiste sur un projet. Grave, c'était cool. C'était cool.
Alors, puisque parfois la mémoire te fait défaut, c'est pas une critique, évidemment, hein, les choses sont un peu éloignées, mais est-ce que tu te souviens un peu des morceaux que t'as fait sur ce disque ou pas?
Il y en avait un qu'on avait clippé à Amsterdam, si je me trompe pas, qui s'appelle...
Alors je te donne quelques noms. On fait le taf, volontaire, demain, ouais, volontaire, c'est volontaire, ok.
Ouais.
Qui est un truc, justement, trap un peu mélancolique avec de la guitare. C'est clairement une direction sur ce genre de morceau que toi tu impulsais, ou c'était aussi une demande? Est-ce qu'il y avait déjà un truc d'échanger ensemble pour créer un son pour un artiste, tu vois, pour créer une identité aussi musicale?
Souvent c'était moi qui lui disais, viens, on fait ça, viens, on fait ci. J'étais plus lui, c'était vraiment rappeur, tu vois. Il avait moins ce côté production, il mettait moins les mains à la pâte. Mm-hmm. Qu'un Riles, par exemple, avec qui j'ai bossé plus tard, peut-être qu'on l'évoquera.
Ouais, évidemment, on va en parler. Voilà. Ouais.
Et du coup, non, BOX, c'était vraiment le côté, vraiment lui. En fait, c'était moi je fais la musique, toi tu rappes. Mm-hmm. On est fort dans nos deux, on est les meilleurs dans nos deux trucs et on fait un truc ensemble. Et souvent, je lui amenais quand même une proposition. Je disais, en ce moment, je fais ça, tac, tac, tac. Voilà. Et moi, j'étais beaucoup plus aussi dans les actualités américaines, mm-hmm. dans ce qui se faisait. Lui, il était plus quand même un peu rap français. Donc vraiment, c'était une bonne complémentarité, mais c'était plutôt moi qui lui amenais les trucs. Ouais.
Tu parlais des États-Unis, moi, 2019, c'est le premier placement américain que je vois à ton nom. C'est pour un rappeur qui s'appelle Jay de Youngen. Mm-hmm. Le morceau s'appelle No Pen, No Pad. Coproduit avec Twan the God. Comment tu as l'opportunité de faire ces premiers placements aux États-Unis?
J'ai l'opportunité en allant là-bas en 2017, en août.
On y vient justement.
Voilà, mon premier voyage à Atlanta. Je suis allé là-bas parce que j'ai un pote à moi, qu'une partie de sa famille habite pas très loin d'Atlanta. Mm-hmm. Et c'était le cousin du coup de mon pote qui fait de la musique, fait un peu de prod, mais pas de manière professionnelle. Mais il était un peu dans la. Du coup, on échangeait. Moi aussi, j'étais au début. Et je lui dis, mais attends, c'est fou. Tous les mecs que j'écoute viennent de ta ville en fait. Et du coup, il me dit, si tu veux, viens quand tu veux, en fait. Il me dit, viens, si tu veux voir comment ça se passe. Et je lui dis, ah ouais, ok, fallait pas me dire deux fois. Je prends mon billet d'avion et je vais là-bas, tu vois, 2017. Et du coup, après, tac, 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 pour en arriver à faire du porte-à-porte partout. Hein. J'allais taper à tous les studios, j'étais en mode, tac, 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 moi je viens de France, je fais des beats, I'm making beats, etc. Et le mec, il s'était dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, le... C'est comme si on est à Paris, il y a un mec qui vient d'Indonésie, tu vois, et il connaît en plus ta culture, ouais, tel artiste. Donc tu te dis, mais t'es obligé d'écouter un petit peu. Au fur et à mesure, je rencontre un peu des gens par hasard dans des accueils, tu sais, dans les fameux lobbies de studios américains.
Ouais, je vois très bien, ouais.
Tu vois, il y a toujours deux, trois têtes, moi j'attendais, ah lui. Bref, et je rencontre Twan un peu par hasard comme ça. Et du coup, il voit que je viens de loin, et je lui dis, moi je fais de la guitare, j'avais ma guitare. Donc le côté guitare fait qu'aussi, eux, ils étaient plus drums, moi j'étais guitare, facile, on fait une prod. On a fait une prod, et après il m'envoie un message en me disant que Jay Dae Youngan a enregistré. Et j'ai des gars que je connaissais pas du tout. Je suis allé voir et j'ai dit que c'était. Enfin, j'ai vu que c'était. Waouh, c'était quand même assez big dans le South américain. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
On était donc en 2017, t'as du coup 22 ans, si je mets quelques sombres, vu que t'es dans 95.
Ouais, c'est ça.
Juste parallèlement à ça, pour qu'on arrive un peu à situer, tu vois, la réalité de ce que c'est aussi, est-ce que tu continues tes études? Est-ce que tu travaillais? T'en étais où, tu vois, sur l'autre vie qu'on a à côté de la musique, quoi?
Bien sûr, non, moi j'ai toujours fait des études, jusqu'en 2017, j'ai fini mes études, et c'est après où je me suis dit, tiens, allez, je vais tenter, on va voir. on se lance dans le bain, on va essayer de tester un peu ce qu'on vaut.
T'as sécure de bas, comme disent les Américains, t'as préféré peut-être assurer d'avoir un diplôme dans un truc.
On a sécure, parce que déjà, ça amène une formation. Déjà, moi j'ai fait une école de business, donc enfin une business school, du coup, ça permet aussi d'avoir un mindset plus entrepreneurial, je pense.
Bien sûr.
Et de comprendre un peu, tu vois, savoir un truc tout con, savoir se présenter, envoyer des mails, etc. Tu vois, donc ça, je pense, c'est important aussi d'avoir un bagage comme ça. Et à côté de ça, ouais, je me suis dit un an. Je travaillais avant, donc j'étais un peu en chômage, etc. Je me dis, tiens, je peux avoir allé un an de répit et on verra ce qui se passe.
Bien sûr.
Et du coup, je me suis parti à Atlanta justement, juste après, enfin, au début de cette année-là. Je rentre en France, je commence à rencontrer Pyroman, donc c'est le code, etc. Donc tout ça, c'est arrivé assez vite. Et en 2018, un an après, où je signe avec Warner, justement, ma première signature.
Important aussi, effectivement, ton parcours, j'imagine, cette première signature en édition, quoi. Ça
c'est exactement, ouais, c'est donc. ça.
Ok. 2019, c'est aussi une année importante parce que c'est ton premier placement, en tout cas crédité pour Riles. Comment tu fais la rencontre de Riles et qu'est-ce qui t'intéresse justement à ce moment-là de travailler avec lui, dans le fait ouais. de travailler avec lui?
De fou. Bah, déjà, Riles, j'en avais entendu parler comme tout le monde, je pense, en 2016, à l'époque de Brothers, etc. J'avais un peu oublié, j'écoutais pas forcément. Et à mon TA qui me dit, ouais, il y a un. Tu sais, Riles, etc. Enfin, je sais plus pourquoi on parlait de lui. Et je me suis dit, mais oui, attends, c'est un Français, mec, qui chante en anglais. Il chante déjà, musicien, il chante. Mm-hmm. Ou il rappe aussi, mais c'est plus
il,
un chanteur.
Il est producteur aussi. Il est producteur. Il s'auto-produit aussi, dans le sens, voilà, il fait ses propres prods, quoi.
Bien sûr, tout à fait. Donc, vraiment, un passé, je me dis, bah, tiens, je vais le DM sur Insta, tout simplement. Il m'a répondu. Je lui envoie un pack et ça finit sur l'album, quoi. Ça s'est fait tellement d'une manière fluide. Mm-hmm. Après, on s'est vu. Après, maintenant, c'est le frérot, c'est la famille. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça.
Et du coup, tu dis c'est la famille, et ouais. effectivement, ça t'a ouvert aussi plein de portes créatives et de possibilités mmh. professionnelles, justement, mmh. de l'avoir rencontré. Mmh. Puisqu'après, tu vas travailler avec Léon, tu vas travailler mmh. avec Younes aussi, dont ils sont proches. Est-ce qu'à chaque fois, du coup, quand tu travailles avec ces différents artistes qui ont des intentions musicales, même s'ils sont du même crew, ils ont des intentions musicales aussi très différentes.
Bien sûr.
Est-ce que justement, parce que tu as cette vision de vouloir être à la fois producteur et réalisateur, d'être aussi, d'impulser des idées et de leur dire. Tiens, ce serait peut-être intéressant que tu ailles là-dessus, tu mmh. vois, parce que ce que tu places pour un Younes sur le disque, même les feuilles, c'est ouais. pas la même chose que tu vas faire avec Léon sur CEP, comme Vibes, etc. Quoi. Mmh, mmh, donc, est-ce qu'il y a déjà tu parlais de mindset, tu mmh. vois, cet état d'esprit dans ta tête, quoi.
Ouais, totalement, totalement. En fait, moi, je crois que je me rends compte de plus en plus que j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire. Je suis pas trop genre les producteurs, il y en a beaucoup. Et
tu
je
marches
respecte.
Pas à la commande, quoi.
Ah, j'ai vraiment du mal, à moins que j'aime la commande. Mmh. Donc, typiquement avec Kalash ou Riles, ils ont du goût. En fait, c'est pour moi, c'est bosser avec des artistes qui ont du goût. C'est vraiment. En fait, je me rends compte que tu vois, je suis pas forcément quelqu'un de mainstream en fait. Et j'aime bien être pointu. Après, il faut trouver son économie, etc. Mm-hmm. Mais j'aime les gens qui aiment la bonne musique. Et quand ça se passe comme ça, moi, je leur propose un truc et ils comprennent. Mais des fois, il peut y avoir des trucs où tu peux bosser avec des artistes qui comprennent pas du tout ce que tu veux. Mm-hmm. Parce que tu sais, ils sont en mode, qu'est-ce qu'il me raconte lui mm-hmm. et toi, pareil. Mais du coup, avec Léon, Younes, il y a un truc de. On a un vrai échange humain. Avant tout. Et c'est pour ça que musicalement, on arrive à s'épanouir, qu'on fait Los Angeles avec Léon, qui est un de ses plus gros titres aujourd'hui, mm-hmm. et c'est un des titres que je kiffe le plus que j'ai fait. Younes, on a fait des trucs plus mélancoliques, qui est dans sa vibe.
Mélancolique, voilà. et on parlait de tes influences ouais. très, très pop de manière mm-hmm. générale. Mm-hmm. Je trouve que quand on écoute justement les productions sur Même les Feuilles, il y a un truc très pop et même très propre, mm-hmm. dans le sens où le mix, il est très clean, quoi, tu vois. Ça sonne très clean.
Ouais. Tout à fait. Younes, j'avais ce truc-là avec lui d'essayer de l'amener sur un truc pop parce que je sentais que lui, c'était pas un chanteur. Il avait pas ce truc de top line, etc. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de lui amener un truc où je le guide vraiment sur un chemin faire des chansons. C'était un freestyler, mm-hmm. j'ai essayé de l'amener faire des chansons.
Ouais.
Mais des belles chansons. Et c'est pour ça qu'on a fait notamment L'Alchimiste.
Oui.
Voilà, qui a des titres vraiment pop. Ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire.
Moi, je suis écrit. Voilà. J'écris des mots qui deviennent des cris. Je range mon écrin et dans mon écran. On sourit moins depuis qu'on est grand. À part ça, je sors d'un partiel, je me sens seul. Hamdoulilah, j'ai la santé, c'est l'essentiel.
Sur cette année 2020, tu fais aussi des placements comme Alonso, Ous, Kalash Criminel avec Big Flo Olé aussi, qui est un morceau qui a. Fait son petit bruit à ce moment-là parce que personne ne s'attendait à voir cette rencontre. Tu vois, le morceau qui s'appelle Moment.
Ouais, tout à fait.
Comment ça fonctionne? C'est parce que tu es signé justement, tu m'as dit chez Warner.
Warner, ouais.
Chez Warner en édition et tu as ces possibilités-là. Est-ce que c'est toi, de ton plein gré, qui va aussi contacter ces artistes-là? Globalement, tu vois comment ça
Alors
se passe?
Moi, il y a beaucoup de collabs déjà avec Reda Prince sur mm-hmm. Moment. Les autres artistes, c'était aussi des collabs. Des fois, c'est moi qui les DM. Mm-hmm. Des fois, c'est moi qui récupère les mails. Mais au début, moi, je connaissais personne. J'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, j'ai personne dans la musique. Mm-hmm. Donc, j'étais obligé d'aller taper à toutes les portes. Hein. Voilà. Donc, ça s'est fait comme ça. J'allais taper à toutes les portes. Je rencontrais, je bossais avec des gens. Il y a aussi un moment important dans ma carrière, c'était quand Niska m'avait appelé aussi en 2017. En fait, j'avais fait un battle qui s'appelait MPC.
Oui, musique Producteur Confession. Ouais.
Voilà, qui est le premier événement que j'ai assisté.
C'est Lion, c'est ça, qui organise ça.
Exactement, Lion.
Salutations à Lion.
Exactement, je crois que t'étais dedans ou je sais plus où, deuxième année.
Non, il y a une année où je suis passé par curiosité professionnelle comme ça. Je crois que c'était avant le Covid. C'était en 2019, si je
me souviens. 2019, ok. Parfait. Et bah du coup, moi, 2017, j'étais là-bas, premier battle, première fois que je rencontre d'autres mecs qui font des prods, etc. Dans la même, tu sais, la fameuse un an où je me suis dit, on va essayer de voir mm-hmm. ce que ça donne. Et du coup, bah, je commence à bosser avec des mecs. Et on avait un mec, du coup, un pote à moi, qui avait le mail de Niska. On lui envoie un pack. Un pack. C'était un samedi soir. Dimanche, je me réveille. Je vois un mail dans la nuit de Niska, lui-même, qui me dit ouais, c'est trop lourd, envoie ton numéro, faut que je t'appelle et tout. Il m'appelle et après, on se voit et on commence à faire des titres ensemble. Et ça, c'était à l'époque où, 2017, donc j'avais vraiment rien.
Ouais, rien, c'est clair.
Et c'était Niska réseau, hein, c'était après Salé, après réseau. Mmh. Donc je rencontre Pyroman d'un côté, il y a Niska de l'autre, il y a quand même des planètes qui s'alignent.
C'est clair.
C'est des signes qui, dans ma route vers, entre guillemets, le succès, à un moment donné, c'est comme des bons voyants. Donc je dis, ah, il faut continuer. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais pourquoi je ferais une...
Parce qu'on parlait du fait de placer, etc.
Oui.
Voilà.
Voilà, donc toujours la démarche d'aller vers les gens. Ouais, c'est ça.
Je voulais qu'on parle juste, qu'on s'arrête sur ce morceau Moment de calage criminel avec Dick Feoli, donc il y a une coprod avec Ray Dawe Prince.
Ouais.
Quand tu m'as dit l'importance qu'avait eu le morceau Oji Kush Diet, quand j'écoute ce morceau-là, j'entends quelque chose effectivement dans la guitare de très caribéen, par exemple. Est-ce que c'est purement, tu vois, accidentel, ou est-ce que ça fait aussi partie des choses où t'avais envie d'explorer, tu vois, toi, musicalement, de faire ce genre de mélange qui est surprenant. L'association Kalash Criminel Big Flo Lee était déjà surprenante à cette époque-là, mais la prod aussi dans les teintes musicales qu'elle a, c'est pas quelque chose qu'on entend habituellement, quoi.
Totalement. J'étais avec Red A Prince, du coup, on a fait des prods, et en fait, il s'avère que lui bosse beaucoup avec Kalash Criminel, et je crois qu'il m'envoie une vidéo de Big Flo qui pose sur le titre, tout simplement. C'est comme ça que ça s'est fait, le placement. Et musicalement, en la production en elle-même, ça s'est fait vraiment au feeling. On n'a pas forcément réfléchi à... Mais c'est sûr que je pensais ni à Kalash Criminel, ni à Big Flo. Je pensais pas du tout à eux. Et
C'est peut-être la meilleure manière de créer quelque chose d'inédit, parce que souvent, quand il y a des collabs, c'est l'un vient dans l'univers de l'autre ou inversement. Donc là, du coup, c'est ni l'un ni l'autre. C'est peut-être la meilleure solution, quoi.
Exactement. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait naturellement. Et c'était le feeling, en fait. Donc ça s'est fait, la guitare. Alors après, on met la rythmique. Un peu trap mélancolique, un petit peu. Enfin, c'est pas trap, mais on va dire, voilà. De l'époque.
Bah, absolument. Dans la rythmique, on est sur des influences trap, c'est certain.
C'est ça, lente. Et puis quelque chose qui a une émotion et qui veut raconter quelque chose. Mm-hmm. Et donc après, Kalash Criminel et Big Flo, ils ont fait leur sauce dessus. Et voilà, c'était cool. C'était un beau placement.
J'ai pas le cœur brisé, bébé. J'ai le cœur d'un enfant soldat. La mort rôde chez nous, les pontes funèbres font du sold out. J'assiste à plus d'enterrements que de mariages, car le premier est une certitude, le deuxième est un choix.
On arrive en 2021, et moi je trouve qu'à partir de cette année, c'est un peu le moment où tu prends en confiance dans tes productions et que tu arrives un peu à affirmer encore plus peut-être tes idées, tu vois. Alors ça se passe notamment via le disque Family Business. On parlait de Riles et de toute l'équipe. Et tu vois, typiquement, alors après c'est aussi peut-être dû aux coproductions que tu peux avoir, aux collabs que tu peux avoir, notamment avec quelqu'un comme Senpai Kachi.
Ouais.
Mais tu vois, un morceau comme précisément Family Business, où on a une espèce de bossa nova trap, enfin tu vois, c'est original, quoi.
Ouais, tout à fait. Non mais grave, encore une fois, on s'amuse, l'humain est là, on a des gens forts musicalement, chacun dans leur domaine. Senpai, c'est un petit prodige, du coup, qui est guitariste aujourd'hui de Chacola en live, et qui fait des prods pour Khali sur l'album, sur son dernier album, qui bosse beaucoup avec toute la nouvelle G. Et lui, on a vraiment un échange, lui il est plus jeune que moi, et du coup il m'apporte un truc, je lui apporte un truc, et en fait on s'est amusé sur ce projet-là, avec Alex qui a produit, avait pas mal de belles chansons sur ce projet-là, c'était un beau projet, et même le côté un peu Dreamville qu'a voulu faire Riles dessus, c'est-à-dire avoir un projet de collectif et un projet de label, je trouvais ça hyper intéressant. Et Family Business, ouais, c'est musicalement, en tout cas, c'est sans compromis. Et ça que j'aime avec Riles, si je dois lui donner son shout-out sur un truc au-delà de l'humain, etc., c'est vraiment le fait de ne pas faire de compromis. Et c'est lui qui m'a aussi influencé là-dedans et qui m'a affirmé dans ce truc-là, sur cette année 2021, de me dire, ok, il faut aussi, il faut surtout, en fait, juste s'exprimer artistiquement. Il ne faut pas forcément que chercher les placements pour les placements, tu vois.
Sur ce disque, ce serait quoi la production que tu préfères, si tu arrives à te souvenir tu veux que je te sorte les titres?
Ouais, je veux bien, si tu les as.
Pas de souci. Il y a un morceau, donc on a parlé Family Business, le morceau Click, il y a Number One, il y a Guerilla, il y a Model S. Je sais pas s'il y a pas mal de morceaux là, il y en a un en particulier.
Model S, incroyable, Trey Houston.
Ouais.
J'adore. Click, un peu plus drill, mais drill mélancolique.
Exactement. C'est pas la drill Bresson à laquelle on était habitué.
C'est ça.
On était. Fin 2020, début 2021, c'est le moment où la drill vraiment se démocratise, notamment avec l'album LMF de Freeze Corleone. Et donc, on est souvent dans des trucs très sombres.
Ouais.
Et là, c'est vrai que c'est pas la même teinte musicale.
Ouais, il y a ça. Et puis, il y a Number One. J'invite tout le monde à l'écouter. C'est vrai que ce titre, il est sous-coté de fou. Je trouve que c'est une très, très belle afro qui est bien produite.
C'est de l'afro nigérienne.
C'est ça, Naija. Ouais. Exactement, un afrobeat super bien produit. Et j'aime. Pour moi, c'est grande musique, catégorique bonne musique, grande musique bien produite, des belles guitares, bien mixées. Donc voilà, j'aime beaucoup ce titre-là. Je dirais mes trois préférés, c'est ceux que je t'ai cités. Ouais.
Ok. C'est aussi ta première collaboration qui sort, en tout cas avec Kalash, avec deux morceaux, il y a Guo Model et il y a Donné.
Ouais.
Comment tu rencontres Kalash et comment vous avez donc l'opportunité de commencer à travailler ensemble?
Kalash, on se rencontre via mon label, via mes éditeurs qui avaient du coup un plug, etc. Ils cherchaient un studio pour enregistrer. Mmh. Moi, je faisais des sessions d'enregistrement, pas forcément en mode producteur, mais en mode vraiment enregistreur, ingé. Et du coup, Kalash, il vient, je l'enregistre et on s'entend hyper bien. Et après, je commence à lui dire que je fais des prods. Mmh. Et après, on commence à bosser des titres. Et il me dit, ouais, il me faut une drill. Et moi, j'aimais bien la drill Pop Smoke, j'adorais, tu vois. Mmh. Et du coup, je rentre chez moi, boum, je fais une drill et ça finit sur Gros Modèle, du coup. Qui est dans la scène antillaise créole, mm-hmm. C'est un hit entre guillemets à cette échelle-là, et du coup bah on a continué à bosser depuis.
Moi je trouve intéressant aussi c'est le morceau Donné,
ouais.
Parce qu'il y a cette rythmique afro et en même temps il y a ce piano corde presque chanson française, si tu comprends ce que je veux dire en termes d'intention.
C'est de la variété, ouais.
Voilà, ouais, exactement. Ouais. C'est une chanson. C'est vraiment une chanson de Kalash, tu vois.
Ouais.
Je trouve ça intéressant le contraste entre cette rythmique forcément qui est dans l'ADN musical de Kalash et ses arrangements qui font encore plus chanson, quoi.
Tout à fait. Donné. Honnêtement, c'était une tente.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
On s'est dit, tiens, vas-y, on va essayer de... Allez, essayons, mm-hmm. faisons un truc dans les Gims, dans les, tu vois, dans tous ces délires de un peu variété française, qui sont, moi, pas trop ma cam, mais en vrai, c'était marrant, c'était un bon exercice. Et des fois, en une carrière d'artiste, c'est aussi essayer des choses.
Bien sûr.
Et on a voulu, on peut tenter de voir, allez, qu'est-ce qu'on voit en faisant de la variété, et surtout Kalash qui voulait voir un peu aussi ce que ça pouvait donner. Avec un beau clip, j'aimais bien la production. Je trouve qu'elle est assez quali. Après, voilà, c'est pas forcément moi ce que j'écoute dans ma playlist, mais c'était marrant. Mais je suis entre les deux, je choisirais plus Gros Modèle quand même. Voilà, qui a été à un moment donné aussi. Il faut quand même se remettre en contexte qu'il y a peu de personnes qui faisaient de la drill en France de ce niveau là pour moi.
Ouais.
Beaucoup c'était un peu drill, hein, mais je trouve que Gros Modèle c'est un vrai son drill. Voilà, en France, dans la scène créole.
Ça pop, ça neuf, ça caffeine, mais monter le service. Rouge chaud d'un frio. Féo. Quand Usain Bolt dépassé Usain Bolt. Quand Usain Bolt dépassé Usain Bolt.
2021, c'est aussi une nouvelle production pour SCH qui n'a plus rien à se dire sur son album Julius 2. Et tu vois, je te parlais de prise de confiance. Je trouve que sur une production comme ça, il y a une forme de prise de confiance parce qu'il se passe des choses dans la prod. Est-ce que tu te souviens un peu le c'était quoi un peu l'intention sur un morceau comme celui-là? Est-ce que c'est un truc que t'as envoyé comme ça? Est-ce que c'est des choses que vous avez travaillé ensemble sur un échange avec SCH? Voilà, comment une prod comme ça naît, quoi?
SCH, c'est né dans mon studio. Je travaillais et en fait je faisais une prod. Je rentrais, je crois, d'un séminaire un peu pop et du coup j'avais une rythmique sur la deuxième partie de Plus Rien à se Dire, très très house en fait. Pop.
Exactement, ce que je voulais dire. Et, tu vois, je voulais qualifier ça d'afro house. Je sais pas comment le dire parce qu'il y a aussi cette chaloupe quand même afro-caribéenne, mais il y a ce grain, ce rendu house, justement.
Exactement, t'as tout dit. Et un grain house, et une première partie plus trap mélancolique. Ça s'est fait comme ça. Et en fait, j'ai envoyé, un peu comme pour Riles, j'avais jamais collaboré avec lui, je récupère son contact, j'envoie, et tout de suite, il me dit « Ah, mon gâté, c'est incroyable, envoie-moi ça et tout ça. » Et boum, ça finit sur Julius 2. Donc, c'était assez fou. Hein. Mais ça s'est fait vraiment comme ça au feeling. Et j'ai tenté un truc, je me suis amusé. La musique, c'est de l'amusement, c'est de l'artistique. Et surtout en tant que producteur, on est vraiment entre les deux. Et à chaque fois, il y a cette fameuse dualité de entre guillemets business, placement, CM, etc. et l'artistique pur. Donc il faut essayer au maximum de tendre vers l'artistique. Moi, c'est ce que j'essaye de faire.
Si tout le monde a un prix, ouais, j'achète un peu plus de ton cœur. Chaque jour, maman prie tous les ciels sous la pluie. Le fils est près du four, j'apprends de mes chats, de ma foi. Ce que la soif m'a fait vivre, on s'aimait en scène.
Mais j'imagine que parfois, parce que c'est aussi une économie, donc c'est-à-dire que c'est c'est des revenus, c'est, il faut faire rentrer de l'argent. Parfois, l'équilibre doit être difficile à trouver entre cette liberté et cette envie de trouver de l'amusement, comme tu dis, cette liberté créative.
La liberté, ouais.
C'est exactement. Ça, ouais. Et en fait, bah, ce retour à réalité qui est, il faut aussi que je puisse gagner ma vie avec ça, quoi.
Faire des hits. C'est ça, c'est le fameux hit. C'est ce que tout le monde nous parle. Après, non, je pense que, ouais, c'est, il faut d'abord, à la base, évidemment, c'est l'amour de la musique, c'est l'amour de la chose. Mais c'est vrai que c'est un équilibre permanent à trouver. Et je pense que, ouais, c'est ça, c'est pas facile. Mais on essaye de faire tout pour arriver à kiffer et s'épanouir. Ça va être assez important d'être épanoui.
On parlait de Riles et du côté justement de sans concession que tu apprécies chez lui et le fait que vous avez continué à travailler ensemble. On parlait de Family Business, le disque, mais il a aussi continué à lui à sortir des morceaux sur les Riles Sundays.
Ouais, c'est ça.
Et il y a mine de rien beaucoup des productions, des coproductions justement sur cette série de morceaux. Moi, il y en a en particulier que j'aime bien. Tout à l'heure, tu disais à quel point quand tu te prends le Sud et quand tu commences à étudier justement toute cette scène du Sud, ça a été important pour toi. Moi, il y a le morceau What's Up que je trouve intéressant. What's up? What's good? What's good? What's poppin'? What's poppin'? What's new? Who trippin'? Is that you? Is that you? I'm just feeling myself. Stop buggin'. What's up? What's up? What's good? What's good? What's poppin'? What's poppin'? What's new? Who trippin'? Is that you? I'm just making my way. Stop buggin'.
Moi, j'aime les trucs sombres, j'aime les propositions underground. Et en fait, underground pour la France, hein, c'est mainstream pour d'autres régions du monde.
Bien sûr.
Mais nous, on s'amuse et moi, je commence à prendre la base, je joue un truc, ah, ça c'est lourd, boum, on construit dessus. Et c'est vrai que cette prod WhatsApp, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce son. Il est vraiment, c'est très cinématographique. Tu vois, je trouve ça assez marrant en fait, on raconte une histoire et en même temps, c'est pas prise de tête, c'est turn up.
Oui, WhatsApp de mémoire dans les paroles, il s'adresse à ses fans en disant. À ceux qui critiquent peut-être ces changements de direction musicale en disant mais en fait laissez-moi tranquille, what's up quoi, je fais ce que je veux quoi.
Exactement, c'est ça.
Bah voilà, le sans concession dont on parlait, l'envie de créativité quoi.
C'est ça.
Sur les Riles Sundays, toi, est-ce qu'il y a un morceau en particulier sur lequel t'as encore une forme de grande satisfaction justement sur les idées, la concrétisation impulsée, tu vois?
For the Show avec Sofiane Pamart.
Ouais.
Je l'aime beaucoup. C'est avec Sofiane, pareil, on a bien collaboré. Je trouve qu'on est vraiment allé au bout de ce qu'on voulait. Et ouais, For the Show, j'aime beaucoup ce titre de Riles. J'aime beaucoup Still Inside aussi. C'est peut-être mon number one. En fait, j'en ai fait pas mal que j'ai un peu oublié, mais Still Inside, du coup, qu'il a joué pas mal en festival cet été. Et je voyais l'énergie qu'on a voulu faire, du coup, c'est Riles et moi, tous les deux. Et le voir concrétiser devant des milliers de personnes dans tous les festivals qu'il a fait en 2022, c'était incroyable. Et c'était vraiment l'énergie qu'on voulait avec une guitare très. Un peu, pas outcast, mais enfin rock, pop, en même temps avec une énergie très hip-hop aussi dans la danse, dans l'énergie qu'il a voulu donner sur scène. Non, j'ai trouvé ça. Ouais, Still Inside, c'est peut-être mon son préféré.
Toujours, c'est aussi une année importante parce que t'arrives à faire des gros placements aux États-Unis. J'aimerais qu'on parle de deux de ces placements. Le plus gros d'abord, c'est pour Migos. Un morceau qui s'appelle Walking a Fool, qui sort sur la réédition de luxe de Culture 3. Comment t'as eu l'opportunité de faire cette prod et... Non, alors d'abord, explique-moi comment t'as eu l'opportunité, je te poserai l'autre question.
Ok, l'opportunité, du coup, à force de, comme je t'avais dit tout à l'heure, d'aller à Atlanta, je suis retourné depuis, j'ai bien connecté avec des gens, j'ai connecté avec des producteurs qui bossent avec un mec qui s'appelle Done Deal, que évidemment tu la connais. Et
qui est un collaborateur de longue date de Migos en plus.
Exact, qui avait fait Hannah Montana, donc un des plus gros hits de Migos. Et moi, je commence à bosser un petit peu avec lui, j'envoie des choses à distance, mais si je l'avais vu en studio, je rentre en France. Et je crois qu'il aimait bien ce que je faisais, etc. Mais voilà, il me dit, ouais, il y a Migos qui arrive demain au studio. Et là, j'étais chez moi, enfin dans mon studio, et j'étais... Bon, là, c'est maintenant ou jamais qu'il faut tout donner. Et je réfléchis à ce truc de qu'est-ce que je peux leur proposer, qu'est-ce qui va leur parler. Voilà, c'est comme ça que l'opportunité s'est faite.
Ce morceau, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup.
Ouais.
C'est les cuivres qu'il y a dessus, qui sont des cuivres qui viennent d'un morceau d'Outkast, enfin d'une interlude en fait, d'un album d'Outkast qui est l'interlude Cream and Cookie qui est sur Stankonia. Et vraiment, moi, quand je lance le truc, je fais, oh, cette rêve de geek de rap, c'est génial, j'adore, je lance des morceaux pour écouter ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en stock ou est-ce que c'était parce que c'était Migos, tu t'es dit, putain, faut que j'arrive à trouver un truc comme ça, quoi.
Ouais, c'est parce que c'était Migos.
Ok,
ouais, vraiment, c'est une des rares fois de ma vie où j'ai produit un truc vraiment que pour quelqu'un, entre guillemets. Enfin, ça m'est déjà arrivé, mais bon. Vraiment, sans avoir un échange, être en studio avec. Et c'est vraiment essayer de les toucher d'une manière. En fait, me dire un peu c'est quoi leurs anciens, c'est quoi leurs refs à eux. Mm-hmm. Et après, je me dis, bah, Atlanta, les années 90, c'est Outkast, hein, mm-hmm. 2000, tu vois, il n'y a mm-hmm. que eux, un peu les top artistes. Ouais. Un peu comme, je sais pas, en France, des Nino, ils auraient eu des Rof ou des Booba, bah mm-hmm. eux, voilà, c'est leur référence à eux, c'est Outkast. Mm-hmm. Donc, j'écoute un peu et je tombe sur cette interlude Kim & Cookie incroyable. Et ouais, j'ai pris les cuivres, j'ai changé, j'ai samplé. Et après, j'ai parti sur une prod qui change complètement. Mais l'intro, enfin, l'intro ouais. épique. Voilà,
ouais. Et ça marche trop bien.
Ouais.
Parce que,
ouais.
en fait, ce qui est drôle, c'est que sur l'album d'Outkast, c'est juste un truc, genre, c'est un jingle d'une émission. C'est vraiment comme ça.
C'est ça.
Et ouais, comment t'arrives à faire une espèce de contre-emploi de je vais vous faire un truc épique avec ce micro-détail de l'album.
Ça dure 2 secondes. Hein,
c'est ça.
Donc, c'est vraiment un truc de geek, comme tu disais, ouais. du rap. Et ouais, c'est la passion, hein, c'est ça. Hein, j'ai trop aimé le. Voilà. Comment c'est joué, je me suis dit c'est pas possible. Et en plus j'ai regardé aussi juste après, j'ai dit personne l'a utilisé.
Non, ouais,
personne l'a utilisé. Je me suis dit bon bah vas-y, let's go.
Et du coup c'est ça la deuxième question que je voulais te poser, c'est-à-dire qu'une ouais. fois que tu fais ce morceau, il l'enregistre.
Ouais.
Comme c'est une coprod d'un deal, comment ça se passe? Il fait des arrangements dessus?
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Après c'est mystère, j'imagine. Une ouais. fois que le morceau est enregistré,
ouais.
qu'est-ce qui se passe ensuite?
Bah exactement, mystère pendant 9 mois, comme un bébé. Sa gestation. Qu'est-ce que ça va être, une fille ou un garçon? Où est-ce que ça va jamais venir? Et du coup après l'album sort, ça devait être dessus.
Ok.
Et je vois que ça sort, c'est pas dessus, tu vois. Mm-hmm. La déception, ascenseur émotionnel.
Tu m'étonnes.
Tu vois. Et finalement, 5 jours après, le Deluxe sort. Avec 5 titres en plus, et c'est le dernier titre. Donc j'écoute le morceau, mais je suis déjà en session avec un autre artiste français.
Okay.
Donc j'ai même pas le temps. Quelqu'un qui mentionne, je vois, je suis dans le truc. Je dis, ah, c'est incroyable, je saute partout et tout, Migos, légende. Et en fait, j'écoute pas le son. Et je rentre le soir chez moi, et après, j'écoute, mais le son, il dure 5 minutes. Et c'est quoi l'outro? En fait, c'est Mike Dean qui a joué une outro de synthé de 2 minutes. Mike Dean, qui est pour moi une légende de la musique. Tupac,
Scarface, les Ghetto Boys, voilà, jusqu'à Travis Scott maintenant.
Jusqu'à Travis, voilà. Kanye West.
Kanye West, évidemment.
Bon, voilà, donc voilà, Mike Dean incroyable. Et qui travaille sur mon... Encore Migos, Mike Dean et Don Deal sur un track. C'est... Qu'est-ce que je peux faire de plus? Donc c'est incroyable. Incroyable.
Chant, mais... Mm. 2021, il y a aussi un morceau pour Key Glock, mm-hmm. Qui s'appelle Quarterback, qui sort mm-hmm. sur la Yellow Tape 2. Mm-hmm. Là, on avait Migos, avec qui tu as pu collaborer directement. Comment ça se passe pour quelqu'un comme Key Glock, qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas le rappeur américain, qui est un rappeur de Memphis,
ouais.
proche de Young Dolph,
ouais.
rest in peace. Comment tu as l'opportunité de placer pour un artiste comme ça?
Pareil, Don Deal aussi.
Ouais.
Key Glock, il vient souvent au studio, il enregistre et on envoie des choses, on fait écouter des trucs. Et pareil, pour le coup, j'ai pas forcément... Je ne sais plus si je l'ai fait pour Key Glock, je crois pas. Mais moi, j'aime trop la soul, en fait. Et du coup...
Et c'est ce que j'allais dire. Je trouve qu'il y a un côté très soulful dans, dans le morceau.
Ouais, bon, pour moi, c'est la... Pour moi, hein, personnellement, c'est la plus belle musique. Il n'y a pas mieux en termes de... Ouais, franchement, c'est la plus belle musique. Genre pour moi, la soul. C'est très personnel, mais non. c'est un truc. Y a... bah, ça veut tout dire, hein, l'âme, en fait. Ça touche
ouais.
le...
Voilà, la musique moi, de l'âme,
c'est...
la soul musique.
Ah, c'est... Ouais, moi, j'aime trop. Et du coup, ouais, je fais cette ligne de basse, un peu comme dans le Migos, mais un peu encore plus soulful, plus laid-back. Et boum, Key Glock est incroyable. Incroyable, ça sort, etc. Magnifique. I'm straight up off the block, hopped in the phone and pushed the top back. I've been hustling for a long time and I can't stop that. Big Glock, I'm that nigga, best believe it and them all facts. I can't trust these niggas or these bitches cause they all rats.
2021, c'était, on le disait, tes premières collaborations avec Kalash.
Mm-hmm.
2022, c'est un peu la concrétisation de ces expérimentations avec l'album Tombolo, mm-hmm. sur lequel tu produis beaucoup de morceaux. Voilà, comment de ces premières collaborations en 2021, tu as été amené à travailler autant justement sur cet album-là? C'est une confiance qui s'est établie, ouais. c'est lui qui cherchait quelque chose en particulier avec toi, voilà, parce qu'il y a une historique particulière justement sur
bah,
ce travail.
Comme je te disais tout à l'heure, Raphaël, en vrai, c'est l'humain, hein.
mm-hmm.
c'est l'humain, c'est vraiment des choses, et le goût, encore une fois,
ouais.
moi, je suis quelqu'un de très chiant sur mes goûts, et enfin, genre, quand je dis chiant, c'est-à-dire que j'ai une exigence,
mm-hmm.
un peu comme, tu vois, dans la cuisine, il y en a, ils vont se contenter de McDo, ou truc. Moi, j'aime bien la bonne cuisine bah, dans la musique, tu vois, mm-hmm. moi, c'est ça. Et Kalash, quelqu'un qui a vraiment du goût. Pourquoi? Parce qu'il a été bercé. Kalash, c'est pas un rappeur, hein. Les gens le voient comme un rappeur, mais il est pas à la base, c'est un mec du reggae dancehall,
mm-hmm.
de la culture jamaïcaine. Donc il y a une culture très plus américaine, jamaïcaine, et moi, boum. En fait, j'ai jamais écouté vraiment de musique dancehall avant, mais le fait qu'on a une culture afro-américaine, en fait. Mais indirectement,
mm-hmm.
décode, tu vois.
Et un truc très important, un truc très important dont on se rend pas compte, pardon, ici en métropole, c'est que aux Antilles, précisément parce qu'il y a cette proximité géographique avec les États-Unis.
Tout à fait.
Et je crois que très tôt, il y a une scène trap très importante, par exemple, aux Antilles également. Donc, et tu le disais, il y a la Jamaïque. Enfin, tous ces genres musicaux-là, en fait, ça crée un terreau en fait, pour tous ces artistes de la génération de Kalash, quoi, et même jusqu'à aujourd'hui.
T'as totalement raison. Et même pour aller même plus loin dans ce truc-là, c'est que moi, je suis allé là-bas et tout, t'arrives, tu mets énergie en Guadeloupe ou Martinique, t'écoutes les sons, c'est pas du tout la culture musicale française. C'est de la salsa, du bachata, du reggaeton. C'est entre guillemets, moi, ce que j'estime être bien produit. Enfin, il y a de la basse, et, voilà, c'est de la musique, quoi. C'est pas des trucs faits foraines comme on peut avoir des fois en France. Et voilà, du coup, Kalash, on a ce lien un peu, tu vois, avec des parcours de vie totalement différents. Mais on se retrouve et on se comprend musicalement. Donc c'est comme ça que ça a amené ton boulot en fait. C'est que petit à petit j'envoyais des trucs, j'aimais ce que lui me demandait. Et du coup moi ça me faisait plaisir de lui faire plaisir et inversement on a fait l'album comme ça.
Alors toi justement qui disais que même si t'avais dû en écouter, t'avais pas une grande inspiration sur les musiques justement peut-être caribéennes.
Ouais, à part les trucs reggae par exemple, tu vois les classiques.
Ouais.
Années 2000,
tout ce qui est dancehall par exemple, voilà.
Un petit peu, bon les trucs mainstream, Sean Paul, mais pas, voilà, pas Digger non.
Est-ce que c'est intéressant pour un musicien comme toi, ce genre de défi, te dire, ok, j'ai un artiste qui est la pointure en France, là-dessus justement, sur plein de musique afro-caribéenne, mais finalement, parce que tu parlais dancehall, mais je pense que c'est quelqu'un qui est capable de faire aussi certaines formes de zouk, enfin, il peut faire plein de choses, tu vois.
Il fait tout.
On l'a vu aussi avec le morceau avec Maureen, dont j'ai oublié le laptop tu vois, il est capable de faire plein de choses très différentes. Te dire, avec moi, mes influences, à réussir à faire une espèce de synthèse de ce qu'on fait tous les deux, mais aussi de se dire il faut que je puisse respecter son univers musical à lui. J'imagine que ça doit être un sacré défi, quoi. Et que ça doit être stimulant.
En fait, c'est pas un défi. En fait, c'est un défi oui et non, parce que
c'est encore une fois le jeu.
La bonne musique. Enfin, moi, c'est ce que j'estime être du goût, tu vois. Et pour moi, c'est du bon goût. En fait, quand j'écoute ça, c'est pas un effort. C'est en mode c'est lourd.
Quand je disais défi, c'est pas genre tu sais un casse-tête.
Ah oui.
C'est dans le genre c'est stimulant.
Je me force pas, mais c'est stimulant.
C'est stimulant. Voilà, tu vois, c'est ça. Dans le côté de jeu dont tu parlais. Tu vas te dire, ok, on me challenge, il faut que j'y aille, tu vois.
Totalement, et vraiment, t'as tout dit, c'est-à-dire qu'on me stimule dans ma musicalité, savoir, ok, bon, t'as fait du rock, t'as fait du rap, t'as fait de la trap, t'as fait du jazz, bon, ça c'est quoi, allez, on va encore ajouter une corde à mon arc. Et c'est vrai que, c'est ultra stimulant, intéressant, parce que pour moi, encore une fois, c'est de la bonne musique, donc quand c'est de la bonne musique, je plonge dedans, et il m'a fait écouter plein de refs, Fabius Cartel, je me suis pris après tous les classiques, et on a fait Tombolo ensemble, on a fait une douzaine de titres dessus. Que j'ai produit et voilà.
Plus parce qu'en plus après il y a la réédition qui sort où il y a encore d'autres morceaux dessus, donc ça fait pas mal de morceaux.
Ouais.
Même question que je t'ai posée sur des disques sur lesquels tu avais beaucoup de production, c'est quoi ou les deux peut-être productions sur lesquelles il y a une forme de satisfaction justement sur ce qu'on décrivait, sur ce truc de réussir l'entre-deux entre mon héritage musical, ses intentions à lui et de faire de la bonne musique. Ce serait quoi, tu vois, peut-être est-ce qu'il y a certains morceaux avec un an de recul sur lesquels tu penses que ça cristallise ça, quoi?
Van Noir avec Hamza, je trouve ce titre, il est assez représentatif de ce que j'aime. Trap très sombre, très cloud. J'aime beaucoup ce titre-là. Je trouve que Malpoli, évidemment, avec Damso, pour moi, c'est de la bonne musique aussi, parce que c'est parti pris, il n'y a pas vraiment de refrain. La structure, elle est un peu. Il y a des basses distordues à mort, un peu en mode Kanye West. Ouais. Donc c'est très.
Mais avec un piano mélancolique.
Mais un piano un peu plus traditionnel.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
C'est le contraste qui est intéressant.
Ouais, exactement. Exactement. J'aime beaucoup Bumpy. Bumpy aussi, qui est un titre très Trinidad, Trinbad. Ouais. Donc là, pour le coup, je me suis pris cette vague-là des artistes de Trinidad, je ne connaissais pas du tout, qui sont assez fous, une vraie vibe, une vraie couleur. Moi, j'aime beaucoup ces titres-là.
Moi, j'aime beaucoup le morceau Tombolo.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que je trouve que dans les accords de guitare, il y a presque quelque chose de rock par le moment, dans certaines sensibilités de rock, je dirais, mais avec cette rythmique caribéenne. Ouais. Et comme c'est un truc qui est très simple, et je crois que toi, c'est quelque chose que tu cherches aussi, cette forme de simplicité. Je trouve que ça laisse aussi de la place à Kalash, avec toutes les variations d'interprétation, les degrés d'interprétation qu'il a sur ce morceau-là, tu vois.
Ouais, totalement, totalement. Non, de fou. Quand tu disais une vibe un peu pop-rock, totalement, la guitare, elle fait très inspirée de cette vibe très, tu vois, années 2000, Chili Peppers, en fait. Sauf que les gens ne le captent pas du tout, parce que c'est de l'afro-créole, ça n'a rien à voir. Mais ceux qui connaissent vraiment, je pense qu'on l'entend dans la guitare. Et après, sur le reste, je trouve que l'interprétation de Kalash, elle est incroyable sur ce titre. Et en vrai, c'est lui qui, pour moi, c'est lui qui... Enfin, je veux dire, ce qu'il fait dessus, c'est trop. C'est un hymne, hein, aujourd'hui, là-bas. Même en France, etc. Mais vraiment dans la scène, en caribéenne. Donc, c'est un titre incroyable. Pourquoi des fois rejoindre un vent de folie qui peine et moins
Et sur la réédition, il y a un morceau qui est justement un peu ludique, je trouve. C'est le morceau silencieux, ouais, sur lequel tu samples Zao.
Ouais.
Comment on sample un morceau de R&B français de la fin des années 2000, tu vois, pour faire quelque chose de drill caribéen en 2022, quoi.
Bah, en fait, c'était à la base pas pour Kalash. J'avais fait la prod avec Alex, mon compère, mm-hmm, de Itoy Club. Et du coup, on a fait cette prod-là pour je sais plus quel rappeur, mais c'était pas du tout pour Kalash. Mm-hmm. Et en fait, je me suis dit, mais attends, ça sonnerait trop bien avec lui dessus. Boum, je lui fais écouter. Et l'idée est venue un peu de s'inspirer de notre patrimoine, quand tu vois les Central Cee, etc., qui semblent des trucs pop anglais ou américains.
Tout à fait.
Nous aussi, on a des Zao, on a des très bons chanteurs, et puis ça a parlé à la France aussi, mm-hmm, d'avoir un Zao que tout le monde connaît, mm-hmm, et c'est comme ça que ça s'est fait. Un truc très mielleux, mm-hmm, un truc très G, mm-hmm, très, très de rue, en fait.
Ouais.
Voilà, c'est comme ça que l'idée, elle est née, cette prod, avec les grosses drums qui tapent, etc. La basse distordue.
T'as pas de temps à perdre, négro, faut marier. Glock 17 quand chargeur fromager. Porte que des vrais diamants, des gros saillés. Une sécu plus sérieuse, j'ai engagé.
Avec le recul d'un an, là, justement, sur cet album et sa réédition, est-ce que tu sens que ça a changé quelque chose pour toi, déjà en tant que musicien? Est-ce que tu sens qu'en termes d'apport d'expérience, ça a été une étape importante?
Ouais, grave. Beaucoup de taf, hein. Franchement, donc déjà, l'expérience, elle vient de par le travail. Puis au-delà même des productions, j'ai enregistré pas mal de titres. J'ai aussi arrangé des titres, mm-hmm, comme Laptop. J'ai bossé dessus, etc. Donc, c'est vrai que, ouais, il y a vraiment un travail d'accompagner un artiste sur tout un album. Ça, c'était hyper intéressant. Et surtout, quand j'ai un artiste, c'est Kalash. Mm-hmm. Donc, une star, un artiste international.
Bien sûr.
Parce que les gens, ils oublient souvent aussi que Kalash, c'est un artiste international. Il fait à l'île Maurice, Madagascar,
mm-hmm, bien sûr.
Guyane, il est sur les 5 continents, en fait. Donc c'est vrai que là-dessus, c'était hyper intéressant de se dire que ça va toucher énormément de monde. Et pas que, tu vois, la France métropolitaine.
Exactement.
Donc, c'est un vrai travail presque culturel, mais archi intéressant et artistique, tu vois, d'essayer d'aller dans différents univers.
Est-ce que tu sens aussi que ça t'a permis d'asseoir un peu plus ta réputation et ta reconnaissance dans le milieu musical, d'avoir cette contribution aussi importante sur un album, comme tu le dis, en plus d'un artiste comme Kalash?
Bah oui, disque d'or, déjà en termes de business, de chiffres, etc., c'est une vraie réussite, surtout qu'encore une fois Kalash, il a beaucoup de sons en créole, donc c'est très très peu de personnes qui parlent créole en fait en France au final. Donc c'est vrai que déjà avoir un disque d'or sur un artiste qui est pas forcément compris dans la langue partout, mm-hmm, par tout le monde, c'est ouf, c'est vraiment ouf. Je pense que les gens faut mesurer le truc, et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est le fait de pas avoir fait de compromis dans cet album. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un truc, il a fait et je l'ai accompagné, un truc où on s'est fait plaisir, mm-hmm, et c'est pour ça qu'encore une fois ça m'a affirmé dans ce truc d'aller sur l'artistique plus que vraiment aller chercher que des placements, tu vois. Donc c'est ça que ça m'a amené, en fait. Ouais.
En 2022, tu as aussi continué à placer aux États-Unis, pour un artiste comme Yo Dogg, par exemple, sur un, ouais, album produit par Cardo, mm-hmm, sur des mixtapes de Pee Wee Longway. Mm-hmm. Est-ce que c'est parce que tu avais réussi, par exemple, à faire des trucs comme Migos, par exemple, que ça t'a ouvert, et tu as une collaboration de confiance avec quelqu'un comme Dom Deal, que ça t'a aussi ouvert des portes parallèlement à ce que tu fais en France?
Ouais, totalement. Mmh. J'aime ça, 95% de ce que j'écoute, c'est, mmh, du rap américain.
Ouais. Ouais,
je suis toujours à la page, j'écoute, j'envoie beaucoup de sons aux États-Unis. Et à force de te connecter avec des équipes, d'avoir fait Migos, d'avoir d'avoir fait des choses, mmh, ça me permet d'avoir des portes qui sont ouvertes, effectivement. Et puis Longway, ouais, j'ai fait 4 titres sur 2 projets différents.
Ouais.
Un featuring avec Young Thug.
C'est ce que j'allais t'en parler, ouais, du morceau Live a Little.
Yes, exactement. Et voilà, donc on continue. Yo Dogg, je trouve que c'est un artiste qui est hyper prometteur. Yo Dogg, à l'écouter pour ceux qui ne connaîtraient pas, il est très proche de Cardo.
Ouais.
Cardo qui a fait tous les hits, énormément de hits.
Grand producteur de rap américain.
Voilà, exactement. Donc j'avais rencontré du coup en studio avec, mm-hmm, Yo Dogg, Cardo. On était à Dallas au moment où Family Ties sortait.
Ok.
Donc le jour où ça sort, c'est Cardo qui a fait la prod, en fait.
Ouais.
Family Ties, Kendrick, Baby King.
Mm-hmm, ouais, tout à fait.
Hymne. Et c'était ouf, l'expérience d'avoir un Cardo très humble. Très 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 humble, très marrant. Il se prend pas la tête alors que le mec il arrive en Lamborghini russe, qui n'est pas une loque, voilà,
qui est la sienne,
qui est la sienne blanche, flambant neuve, et il habite dans un, bref. Donc c'était inspirant parce que lui n'a jamais fait de compromis.
Ouais, de fou.
Il n'a jamais fait de mainstream, en fait. Tout ce qu'il a fait, c'est des grosses drums et un truc underground, mais qu'en fait.
Il a commencé en faisant des choses d'inspiration très californienne. Son producteur préféré, c'est DJ Quick. À un moment où la trappe décolle, donc lui déjà il a une contre-proposition. Notamment pour des gens comme Wiz Khalifa,
ouais,
exactement.
Ouais.
Et après, effectivement, en bossant avec Johnny Giuliano, enfin, plein de gens comme ça, à chercher des textures bizarres. Le morceau That Part, par exemple, de Schoolboy Q et Kanye West, c'est trop bizarre quand ça sort et ça défonce.
Incroyable.
Donc c'est ça exactement, ça va dans le sens que tu disais.
Et lui vient de Dallas.
Alors, en fait, il a bougé à Dallas, mais je crois qu'il est du nord des États-Unis, genre du Minnesota ou un truc dans le genre, tu
D'accord,
vois.
D'accord, ok. En tout cas, je crois qu'il a.
Et après, il a bougé à Dallas.
Claim, enfin voilà, il a exactement. Grandi, en tout cas, je crois que peut-être une grande partie de sa vie, en tout cas, à Dallas.
Tout à fait. Ouais.
Donc il y a aussi l'inspiration très trap, je pense, qui vient
bien
de là.
Bien sûr.
Et en vrai, les basses, les sonorités, Screw, sur Don Toliver.
Bien sûr.
Quand on était au studio, il nous dit j'étais avec Don Toliver et hier, on finit son album. Après, il a bossé sur Drake, il a bossé sur Young Thug, il bosse sur tout le monde, en fait. Et Yo Dogg, du coup, qui est son artiste, incroyable de travailler avec lui. Et même, je peux même le dire là en excuse, que j'ai un projet qui s'appelle Paris Atlanta que j'ai fait, et du coup il y a 10 titres avec 10 rappeurs dont Yo Dogg, voilà, de Atlanta, des rappeurs underground un peu plus connus, et voilà Yo Dogg que j'ai invité voilà sur ce projet.
Ça doit sortir quand?
Pas encore de date, mais ça arrivera très bien.
Surveillez ciel, comme on dit,
voilà,
ça.
Surveillez les réseaux, et je pense que ça va arriver très bientôt avec Paris Atlanta, ce projet là
parallèlement, depuis justement l'album Tombolo, t'as continué aussi à faire des placements dans le rap français avec Eight Rookie, coproduction avec Banks Beats, avec Caballero et Jean Jass, sur un morceau qui s'appelle Type Plante, avec Savage Toddy. Quelqu'un dont on n'a pas parlé, qui est Roshi, avec qui t'as aussi beaucoup collaboré. Toi, justement, qui es sur l'humain, est-ce que là, c'est à chaque fois, c'est des rencontres et t'essayes de capter un petit peu sur quoi, toi, tu pourrais les amener? Est-ce que c'est des choses qui se font à distance parce que tu étais aussi très concentré sur l'album de Kalash, voilà, ces productions-là, comment ça a pu se faire?
Un peu de tout, un peu de tout. Beaucoup des fois, des collabs avec Banks Beats, par exemple, collab qui a fini sur Eight Rookie, très Detroit, la vibe très
De fou,
42, etc. Après, il y a les autres que tu as dit, Roshi, c'est en fait, je commence à lui envoyer des trucs que j'aimais bien. Et du coup, bah voilà, ça a bien matché. Roshi, en fait, c'est un des gars qui capte le mieux mes prods. Mes vrais prods, en fait, c'est-à-dire ce que j'aime vraiment faire quand je suis tout seul. Et du coup, c'est ça qui est kiffant. Et comme je t'ai dit, je me rends compte qu'en fait, moi, je suis un gars grave. En fait, je suis grave underground, en fait. j'aime trop les trucs. Enfin, pour la France, c'est pointu underground. Aux États-Unis, c'est mainstream. Mais pour ce marché-là.
Et c'est vrai que avec Roshi, c'est typiquement des trucs de trap un peu bizarres, distordus, etc. Ouais. Voilà.
C'est ça que j'aime, moi. les trucs chelous. mais encore une fois, c'est mainstream. C'est les trucs qui arrivaient sur les albums de Lil Durk, de Kodak, de Migos. Mais en France, bon, bah voilà, ça peut être underground, ça va pas en radio. C'est bon, on sort nos projets et on va sortir des projets très bientôt avec Roshi.
Okay.
On a un projet commun. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui arrivent pour essayer d'implanter sa couleur.
Moi, il y a un morceau que je trouve intéressant, c'est le morceau CRPT.
Ouf, banger ça.
Parce que c'est une coupe, enfin, il y a marqué coprod Sofiane Marlowe, donc j'imagine que c'est lui qui fait le piano.
C'est ça, c'est ça.
Et pour moi, c'est un contre-emploi total de ce que ce pourquoi on appelle d'habitude Sofiane, des choses qui sont justement très françaises, très mélancoliques, mélodieuses, tu sais, le grand piano.
Musique classique, ouais.
Voilà, c'est ça. Ouais. Là, le piano, il sonne complètement sautillant, un peu désaccord. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très surprenant quand tu vois sur le papier Sofiane Pamart, ce sur quoi, à quoi on est habitué d'entendre, et ce que vous faites sur ce morceau-là, quoi.
Ah, mais totalement. Et Sofiane Pamart, c'était une belle rencontre grâce à Riles. On a bossé beaucoup avec Riles. Du coup, on s'est fait comme Riles des saisons 2. Et on a fait cette prod pendant un séminaire pour Riles. Et finalement, je l'envoie à Roshi. Et encore une fois, Roshi qui a du goût, qui capte mes prods, dit « Ah, il a dit celle-là, elle est incroyable. » Moi, je savais que cette prod, elle était incroyable. Elle est folle, en fait. Il y a un truc fou. Et on dirait presque un mec bourré qui marche, tu sais, le piano.
Ah, ça titube,
Titubant, bateau. Genre, il va couler, il va tomber, mais en fait, il tombe pas, il se relève. Et une prod, des drums chelous.
Ouais.
C'est archi chelou. Et je crois qu'il a joué à la Cigale, Roshi, vers la fin du show, et Pogo. Tu vois, moi, c'est ça que j'aime, en fait. C'est ce truc de rock. On en revient à la base. D'énergie. De l'énergie. Et du coup, pas marre, Sofiane, incroyable. Et je passe un bonjour, qui cartonne tout en plus à l'international maintenant. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse plus de choses ensemble. C'était une belle réussite, ce titre-là.
J'arrive tout en Gucci, me connais pas. Un pan pour un fils de ministre. Galère et tourner dans la vie, c'est le minimum. Si tu veux que tu chantes dans la ville. Mais bon, je fais le maximum. J'ai joué fixe le podium de la coupe, j'ai envie. Pas de paraître, faut fuir quand ça vrille. Que tu fais en fait, mais en pire, on a les couilles en repenser.
Avant qu'on parle des 808 Club. On a cité pas mal de noms, on a cité Alex Grox, Senpai Kachi, Banks Beats. Je te propose un petit exercice que j'aime bien soumettre justement aux producteurs comme toi qui ont l'habitude aussi de faire des collabs. Ces producteurs-là, j'aimerais que tu me dises c'est quoi un petit peu pour toi leur atout, leur forte, qui permet de compléter aussi ce que toi tu sais faire. Je te propose qu'on commence avec Alex Grock, justement. Ouais. Rappeler peut-être qui c'est.
Ouais, bien sûr.
Et c'est quoi peut-être un peu son, voilà, son, cette espèce de carte qu'il a dans son jeu, que toi, tu n'as pas forcément et qui vous permet de vous compléter.
Alors déjà, Alex, c'est l'équipe de Riles, mm-hmm. donc producteur attitré de, on va dire, de Riles, de toute l'équipe. Ingé aussi, mixeur. Et, vraiment, voilà, c'est simple, c'est que moi, je suis plus trap, lui, il est plus drill. Voilà, donc okay. déjà, Étoile Club, quand vous entendez, quand on entend les sonorités, c'est que c'est en général, voilà, lui est vraiment drill, central aussi, il aime ça, il est très fort en drums drill. Moi, je suis plus sur la partie trap, je fais un peu de drill aussi, mais voilà, on se complète là-dessus.
Ok. Ouais. Senpai Kachi.
Kachi la mélo, hein. Kachi la mélodie, hein. C'est, lui, c'est un grand musicien. Grand musicien, grand pianiste, il marche sur les pas Sofiane Pamara, je pense. Quand je dis ça, c'est pas en mode c'est la culture, c'est en mode c'est il a vraiment une technique très très forte en musicalité et voilà. Mais ça, Tiakola en tournée du coup le prouve avec Senpai Kachi à côté.
Banks Beats,
c'est le sale, hein. la trap house. Non, Banks Beats, c'est ça, hein. C'est l'underground que j'aime, tu vois.
Enfin, c'est un gros bousier de rap américain. Ici, mais ouais. Mainstream aux États-Unis. C'est un gros bousier de rap américain. Ouais.
C'est ça, on se rejoint là-dessus.
Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a un producteur en France avec qui tu n'as pas encore collaboré et avec qui tu aimerais bien? Tu te dis, si on arrive à faire une sauce ensemble, ce serait intéressant.
Ikaz Boy. Hein.
Ouais.
Ouais, Ikaz, forcément, on se connaît, on s'est déjà croisés, mais on n'a jamais vraiment bossé ensemble. Ponko. Mm-hmm. Ponko, légende, Scred.
Ouais.
Scred, magnifique, ce qu'il a fait pour Burna le dernier là.
Ouais.
Incroyable, City on the Top of the World, je sais plus. Tariq Azouz, bon, on a déjà collaboré ensemble, mais je dis un peu tous les gens que je respecte. Mais ouais, voilà, à ces noms-là. Ouais.
Salutations à Tariq qui est venu dans cette émission d'ailleurs, je le salue. Parlons du 808 Club pour finir cette émission. C'est un concept que vous avez lancé avec Alex Grox en 2022. Ouais. Excusez-moi. C'est né de quoi, cette envie de faire cette émission?
Le concept, il vient de se dire, allez, on place beaucoup, etc. On va dans l'univers de tout le monde, mais essayons d'amener des gens dans notre univers et amusons-nous. Et tu vois, ce truc de casser un peu les codes, pas d'aller contre le mainstream, mais de se dire, on essaie de proposer un truc différent et de montrer la performance. On trouvait ça intéressant, en fait. On trouvait ça intéressant et du coup, on a aussi eu la volonté de faire découvrir des têtes, d'avoir des têtes un peu intermédiaires. Et petit à petit, l'objectif de 808 Club à terme, c'est de se dire qu'on a une force de frappe qui fait qu'on fait péter quelqu'un en l'invitant, en fait. Même quelqu'un d'inconnu qu'on aime bien, qui est fort, évidemment, et que tout le monde se le prenne. Donc, c'est d'essayer d'amener les gens dans notre univers. Voilà, 808 Club, c'est vraiment ça. Et on est inspiré de Fumzy Ingénieur, de Colors aussi. Donc, d'essayer d'avoir une vidéo où tu play, t'as tout de suite un son. Et qu'on montre un peu comment l'envers du décor et on se met en avant en artiste.
Alors, c'est intéressant ce que tu disais sur le fait d'amener les artistes sur votre univers, parce que je trouve que les titres les plus réussis du 808 Club, c'est précisément ceux sur lesquels j'ai la sensation que, tout à l'heure, je te parlais de défi pour toi, tu vois, de travailler avec Kalash, sur lequel il y a une forme de défi aussi pour les artistes. Tu vois, des morceaux comme numéro 10 pour que Joe Pastard, par exemple, qui est très quinri, basse à la Michigan, un peu, enfin, ce truc-là, qui est très quinri dans l'approche.
Ça part en chata même aussi.
Exactement.
En trois parties.
Il y a du mouvement en plus dans l'instru, ça bouge beaucoup. Ouais. Un morceau comme Moteur allemand pour Chansco qui commence. Tu crois que c'est de la Jersey et boum, c'est de la Baltimore.
Ouais. Ouais.
Ce truc très club quoi.
Ouais, très très club, soulful.
Tous ces morceaux où il y a un peu ce truc de. On t'amène dans quelque chose que t'es pas habitué à faire. Je trouve que c'est les morceaux de les titres les plus intéressants.
C'est ça en fait, c'est un parti pris et déjà merci pour avoir apprécié ces titres là. Et en fait, ça a commencé cet club évidemment par Kershak, McFleury qui a été un carton tout de suite.
Tout à fait.
Et ça nous a aussi encouragé à continuer parce qu'en fait, on s'est amusé, on a essayé de faire un truc sampler Edith Piaf sur du Jersey, c'est vraiment le truc, le bras d'honneur aux puristes ou je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment le truc. Regarde ce qu'on fait, tu vois. On s'en fout, donc casse les codes. Et au final, on a vraiment essayé de d'amener les mecs dans notre univers. Et de proposer un truc même aux auditeurs aussi différent. Donc voilà.
Ce serait quoi ton titre préféré pour le moment de...
Numéro 10, hein, comme tu as dit. J'aime... Ah, je kiffe ce track. Je trouve qu'il est super réussi. Sous-côté aussi. Et il y en a qui sont pas encore sortis avec des anglais. On était à London, on a fait des anglais très chauds. Très très chauds qui vont sortir bientôt. Et voilà.
Ok. À court, moyen, long terme, c'est quoi un peu tes envies et tes projets en plus de ce que tu fais déjà, c'est-à-dire de faire de la réal, de faire du placement, d'avoir cette émission. Est-ce que c'est d'accompagner des jeunes producteurs? Est-ce que c'est de trouver un jeune artiste à développer, de monter un label de producteur? Ta propre boîte d'édition, c'est quoi un peu tes envies?
Alors, l'envie, déjà, j'ai déjà ma boîte d'édition. Okay. Mon label s'appelle Overseas.
Okay.
Voilà, Overseas, bon, pour évidemment Outre-mer, mm-hmm. mais dans le sens voyager, ce qui a toujours été ma caractéristique. Et moi, l'ambition, c'est l'international. Hein. Mm-hmm. C'est ça, mon ambition, c'est d'aller un max sur l'international. Hein. Que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, même le Nigeria. Voilà, c'est vraiment. En fait, c'est que j'aime bien la musique française, mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a un peu dans ce que j'aime faire, un petit plafond mm-hmm. qui fait que ce que je fais, je sais que ça, on verra, peut-être que je me détromperai, mais ça a forte chance de ne pas passer sur des grandes radios et d'être vraiment mainstream, en fait. Mm-hmm. Parce que j'entends les Ninho, les Jul, etc. Et c'est pas du tout moi ce que je fais. Mm-hmm. Et c'est vrai que je me dis, par contre, aux États-Unis, j'entends le top 50, le rap caviar. C'est ça que j'aime, c'est ça que je fais. En Angleterre aussi. Parce que c'est très soul, jazz, etc. Donc c'est plus ma couleur. Mm-hmm. Donc je pense que mon ambition, mes envies en tout cas, on verra ce que ça donne, c'est d'aller sur l'international.
Hein. Ok.
Ouais, on verra ce que ça donne.
On va finir cet entretien avec la question en général la plus difficile pour les producteurs comme toi qui viennent dans BPM. Mm. Si à ce jour tu dois te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ta musique mm-hmm. en une production, ce serait laquelle?
Bah, Migos, Working a Fool.
Ouais.
Ouais.
On y revient.
Ouais, fort. Fort. Parce que même au-delà, même si c'était pas Migos qui l'avait pris, ouais, juste la prod, c'est une de mes prods préférées que j'ai faites.
Ok.
Voilà. Celle-là et Kick Lock aussi, Quarterback.
Ouais, Quarterback.
Voilà, c'est vraiment ce qui me représente le plus.
Les cuivres, la chaleur, ouais, les vrais instruments.
Ce que j'estime être de la grande musique.
C'est ça.
Voilà. Bien produit, de la bonne musique. Voilà. Ce n'est que mes goûts, encore une fois. Mais
Tu es un soul man, en fait.
C'est ça.
Tu es un soul man
dans
la mauvaise époque.
Ah. C'est ça.
Et ben, merci à toi d'avoir été avec nous dans BPM.
Merci, Raphaël.
Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve normalement la saison prochaine. Salut tout le monde.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.